טוב, שלום לכולם. בעזרת השם, nous allons continuer donc de développer la force qui permet de percevoir le divin dans notre monde par le biais de la terre d'Israël. Comme nous avons expliqué que la terre d'Israël a une qualité intrinsèque qui permet à l'homme d'arriver à un degré de névoie, de prophétie, parce que la terre d'Israël est de la même nature, en fait, que le créateur du monde. C'est comme si, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a laissé dans le monde une partie qui garde la mémoire initiale. C'est-à-dire que les parties du monde créées se sont éloignées du créateur. Alors, chaque fois que nous créons quelque chose, nous on ne peut pas créer, mais lorsque la création se fait, la création, c'est comme si elle était jetée très loin du créateur. Et donc, automatiquement, la création est loin du créateur, dans sa racine. Et son but, c'est de revenir vers le créateur, de le dévoiler. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu a laissé une partie, donc une mémoire en fait, même dans la terre elle-même, dans la matière, qui est de la même qualité que le Créateur lui-même. Donc elle s'appelle Eretz HaKodesh, la terre du Saint béni soit-il, qui lui appartient, alors que toute la planète lui appartient. Mais celle-ci, on dit qu'elle a Eretz HaKodesh, c'est-à-dire qu'elle veut, Eretz du terme Rotze, Ratson, elle veut dévoiler le Kodesh. Donc c'est son désir profond, elle est fabriquée, elle a été créée avec cette nature, et elle ne s'est pas dénaturée. Donc elle a gardé en fait tout son système. C'est pour ça que d'ailleurs les sages nous disent que le Maboul n'a pas eu lieu en Eretz Israël. C'est-à-dire même Eretz Israël n'a pas été dégradé par le déluge. Ok ? Alors, juste je résume la partie de droite, parce qu'on a avancé presque jusqu'au milieu. On a expliqué que quiconque veut recevoir la force donc imaginative en Eretz Israël, la vraie, bien doit dessiner dans son monde intérieur, dans ses ressentis, dans son imaginaire, les ressentis de la sainteté d'Eretz Israël et tout ce qui pousse en elle. On a dit pas seulement ce qui pousse au niveau végétal, mais tout ce qui grandit en Eretz Israël. C'est-à-dire que je dois me servir de tout ce qui pousse ici, et le végétal, et animal, et l'homme, et les constructions, tout ça, ça s'appelle pousser, pour voir en réalité, pour pouvoir m'attacher à la force d'Eretz Israël qui offre cette nature de construction constante. C'est-à-dire que la terre d'Israël est liée au futur, donc liée à l'optimisme. Elle est tout le temps dans un mouvement. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Europe. L'Europe vieillit. L'Europe est en train de mourir. Pourquoi ? Tout simplement, il n'y a pas de naissance, déjà. Combien une famille française amène des enfants dans le monde ? 0,8. Ça veut dire que c'est un... 80% d'un enfant. Ça veut dire, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Alors que la France va perdre, en fait, son futur. Elle est en train de perdre son futur. Donc, elle tient pour l'instant, elle vit pour l'instant de son passé. Donc, elle finit les économies de son passé. Une fois que les économies de son passé seront mangées totalement, mais elle n'existe plus. Okay? Ça veut dire que c'est comme ça que ça marche. Elle, quelqu'un qui dort sur ses lauriers, ils seront devenus un autre peuple. Ils sont mangés par une autre nation. Donc, Shemitam Zelo Utru Babasar Ta'avarat Lachar Eretz Israël. Donc, la viande, qui correspond en fait à un degré très matériel, lui est autorisé en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a une tendance à se rapprocher de la viande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la terre d'Israël permet de descendre à un niveau très bas, parce qu'il n'y a pas de crainte ici, en Eretz Israël, de se faire happé, mangé par le monde de la matière. La raison en est simple, le monde de la matière en Eretz Israël est aussi sain que le monde de l'esprit en Eretz Israël. Parce que la matière et l'esprit en Eretz Israël se marient. Je vous ai expliqué le terme de nos sages. Il y a une liaison entre le ciel et la terre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut développer notre force imaginative pour la purifier, pour la rendre apte à recevoir les messages. Moralité, vous devez en Eretz Israël développer votre prophétie. Vous êtes prophète. Nous sommes prophètes par nature. C'est-à-dire, nous avons une nature de prophète. Seulement, cette nature de prophétie est éteinte. On ne l'a pas utilisée encore. On a un moteur qu'on n'a pas encore utilisé, qu'on n'a pas encore mis en marche. Donc pour l'instant, on utilise en fait des parties superficielles de notre être, alors qu'on devrait déjà commencer à utiliser des parties profondes de notre être. Et nous les avons. Il faut juste les mettre en marche. Donc c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous prévoit pour la fin des temps, c'est que les enfants d'Israël vont redevenir ce qu'ils sont dans leur nature, c'est-à-dire des prophètes. Et donc, tout ceci en Eretz Israël, dans la terre qui a les qualités propices pour développer cette prophétie. Alors, je passe à la deuxième partie. Hatzorech bemeshalim vedimyonot, toujours à droite. Hatzorech bemeshalim vedimyonot beasagat elohut. Pourquoi nous avons besoin de paraboles, d'images, pour essayer de comprendre, pour essayer d'atteindre quelque chose de l'ordre de l'infini, béni soit-il, mais tout simplement, Biglal, Shebne Adam, Einam, Yecholim, Leasiga, Orota, Elionim, Eizot, Fissa, Shei. Ach, Verak, Aliede, Tzimtzumim, Vehagbalot. Pourquoi le prophète a-t-il besoin de passer par des images pour recevoir sa prophétie? Tout simplement parce que c'est un homme. Le prophète, c'est pas Dieu. Même Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, ce sont des hommes. Et comme tout homme, l'homme a besoin de concentrer l'infini, béni soit-il, pour voir quelque chose. Si je veux voir l'infini, je ne peux pas le toucher. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer un vêtement, ce qui s'appelle donc une image, pour donner une mesure à ce que je vais recevoir de l'infini. Tout ce qui est limité, c'est ce qui est dévoilé. Tout ce qui n'est pas limité n'est pas dévoilé. Vous êtes d'accord avec ce développement-là? Alors, la Neshama, par exemple, elle est illimitée. Donc si je ne l'enveloppe pas, je ne peux pas la voir. Mais dès que la Neshama rentre dans un corps, le corps c'est un vêtement pour la Neshama, donc la Neshama maintenant est limitée par le corps, et bien maintenant elle peut s'exprimer. C'est paradoxal. Je l'ai couverte, et c'est là où elle commence à se faire à voir, à réaliser ce qu'elle a à faire. De la même manière, le matin, pour venir me dévoiler à vous, je suis obligé de me cacher. Comment je me cache? Par des vêtements. Donc c'est bizarre. Si je veux me dévoiler à vous, pourquoi j'ai besoin de me cacher? Parce que si je ne me cache pas, je ne peux pas me dévoiler. Donc je me suis couvert pour me dévoiler. Et toute chose dans ce monde, pour être dévoilée, doit être couverte. Les lettres dans la Torah, si on ne les avait pas peintes en noir, le noir c'est le vêtement, eh bien on n'aurait pas vu les lettres, alors qu'elles existent ces lettres, elles sont dans le blanc, elles sont noyées dans le blanc du parchemin. Mais comme je les ai peintes en noir, je peux commencer à les voir. Mais toute chose dans notre monde c'est comme ça, si je n'ai pas un écran, je ne peux pas voir le film. D'accord? Quand je veux projeter un film, il faut que j'ai un écran. Eh bien, un écran, c'est un paradoxe par rapport au projet du film. Eh bien, Dafka, parce que j'ai dit non, j'ai dit stop, c'est là où je commence à recevoir l'image. Je veux écouter. Qu'est-ce qu'il y a au bout de mon oreille? Un tympan qui dit stop. C'est-à-dire, il est en train de bloquer apparemment, mais c'est grâce à ça que je peux entendre. S'il y avait un trou, j'entendrais rien. Si je veux respirer, j'ai besoin d'un système qui dit stop. C'est-à-dire, je ne peux pas respirer. Je m'étouffe. Je suis obligé d'expirer. Ça veut dire qu'il y a un système à l'intérieur de moi qui dit à l'air qui rentre, stop. Et c'est grâce à ce stop qui est apparemment, encore une fois, paradoxal, que je peux respirer. Donc je peux voir quand j'ai quelque chose qui tape sur un objet, sur un écran. Je résume donc avec des mots simples. Tout ce que je veux dévoiler dans ce monde, que ce soit physique ou spirituel, je dois le vêtir. Je veux exprimer une pensée, je dois la structurer dans des paroles. Que fait ma parole? Elle limite, elle donne un vêtement à ma pensée. Et dès que j'ai cette parole, je peux véhiculer une mesure. Mesure en hébreu, shiur. Donc je donne un shiur, je donne une mesure. Si je ne peux pas donner une mesure, les élèves ne comprennent rien. Donc je suis obligé d'habiller ce que je dois dire avec des mots. Je dois concentrer, je dois structurer, je dois faire un tzimtzum, une contraction pour accoucher. De la même manière qu'une femme a des contractions pour engendrer un bébé. Elle ne peut pas engendrer un bébé si elle n'est pas dans la contraction. Écoutez bien le mot contre-action. C'est exactement contre l'action. Alors comment ça marche? Mais justement parce qu'il y a ce contre de l'action que cette action est possible. D'accord? L'électricité, c'est la même chose. Je veux donner 100 watts. Et je dois résister 100 watts. C'est-à-dire que j'achète une lampe à la macolette. Qu'est-ce que je demande en réalité? Je veux une lampe de 100 watts. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux une lampe de 100 watts? Qui tient 100, qui résiste. C'est bizarre. Je veux éclairer et je parle de résistance. Mais c'est la même chose. En réalité, dans ce monde, tu ne peux recevoir que ce à quoi tu es capable de résister. Est-ce que c'est clair? Si tu n'es pas capable de résister à quelque chose, tu ne le recevras jamais. Je veux recevoir un verre de thé chaud. Si je prends un gobelet en plastique, il n'est pas capable de résister à la chaleur du thé. Donc je n'ai rien. Ok? Ken? Elle est plus fine, plus raffinée, mais elle est toujours une névoie d'un homme. Moshe, ce n'est pas un dieu. D'accord? Mais elle est d'un autre degré, c'est vrai. C'est-à-dire que la névoie de Moshe est claire, alors que la névoie des autres prophètes, c'est un petit peu trouble. Ils voient une image dans leur esprit, et on leur donne aussi la solution à côté. Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de parabole. Moshe Rabbeinu comprend immédiatement, parce qu'il voit comment HaKadosh Baruch Hu veut conduire le monde dans les jours à venir. Ok? Alors là, nous avançons. Ve'inyan ha-tzimtzum, donc cette contraction-là, que le prophète est obligé de développer en lui, hu ha-mashal ve'adimyon. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le mashal, l'exemple, ve'adimyon est le monde imaginatif. Et c'est comme ça qu'on peut associer une forme au créateur, le donneur des formes. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit très clair. Une femme est venue me voir cette semaine après un cours en me disant que son papa qui est décédé est venu en rêve. Il était en train de bâtir un mur avec les vénimes, comment on dit, des briques. Et il avait l'air très fatigué et il lui a dit: je suis très fatigué, je ne peux pas terminer le mur. Il y avait 3 briques posées par terre. Il n'arrivait plus à les lever pour finir le mur. Il fallait que 3 briques pour finir le mur. Voilà le rêve. Alors je l'ai dit à cette dame: donc vous êtes 3 enfants. Elle m'a regardé comme ça. Okay. Elle m'a dit: d'où tu sais? J'ai dit: parce que c'est ton rêve, c'est toi qui me l'as dit, c'est tout. Vous êtes 3 enfants. Les benim, c'est les banim. Donc vous êtes 3 enfants. Et votre papa a besoin de vous 3 maintenant pour terminer son tikkun à lui, son mur. Il a bâti un mur et il lui a besoin de 3 éléments encore. Okay, alors elle est tombée par terre, elle m'a dit: c'est incroyable parce qu'il nous vient en rêve, on ne savait pas ce qu'il voulait. Okay, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qu'elle a rêvé, elle? Elle a rêvé des choses au niveau prophétique, c'est 1/60 de la prophétie. Mais il faut lui traduire le rêve en réalité. Alors si je m'attache aux briques, imaginez-vous que je suis idiot. Elle me raconte ça et je lui dis: bon, ben, ça veut dire que vous allez être maçon. J'ai rien compris. C'est comme quand je donne un exemple dans un cours et un des élèves part sur l'exemple et commence à me développer un cours sur l'exemple. Mais arrête, tu n'as rien compris, c'est juste une parabole. C'est juste une image. Sors de cette image, je suis en train de te parler en code. Décode ce que je suis en train de dire. Et donc, si je comprends ce sens-là, ben, je peux comprendre que le papa a besoin de ses enfants pour terminer un certain travail dans sa vie. Et donc, le prophète a besoin de recevoir une image, un petit peu comme celle que je viens de vous dire. Et ça peut se passer aussi comme ça, chez un prophète. La même image, le même rêve que je viens de vous raconter, ça peut se passer aussi chez un prophète. Et il reçoit en même temps la solution. Ok ? Donc tout ceci est l'étage de tous les prophètes. Comme il est dit donc dans Oshéa, oser, en français, il faut oser le dire. Ubeyad hanevim adame. Et dans les mains des prophètes, j'apparaîtrai en forme d'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète a une capacité de recevoir dans sa main et l'image et la solution pour agir. On a expliqué la dernière fois pourquoi on parlait des mains du prophète. C'est pour ça que les prophètes ont dit « Ko Amar Hashem ». Quand ils disent « Ko Amar Hashem », mais ça veut dire que le prophète parle à peu près d'un degré qui s'appelle « Ko ». Oulam Moshe Rabbeinu. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, itnaba beze hadavar. À la différence des autres prophètes qui étaient ko ama, Moshe dit ze hadavar. C'est-à-dire que chez Moshe, ça devient beaucoup plus précis, beaucoup plus clair. Il peut même mettre le doigt sur le sujet, directement. Donc, chez les prophètes, c'est à peu près ce que l'Éternel dit. Je n'ai pas quelque chose de très clair ou de plus clair à vous offrir, je suis désolé. Et Moshe, c'est quelque chose de très clair. Ici, Getanim Shal, Belo Hamashal. Donc Moshe n'a pas besoin du Mashal. Qu'est-ce que c'est le Mashal? L'exemple. Il a directement la solution. Alors qu'un autre prophète a besoin du Mashal et du Nimshal. De l'exemple et de la solution de l'exemple. Donc Moshe Rabbeinu a moins besoin, okay? Le Rav ne veut pas développer ici, mais le Ramchal développe dans Da'at Tvunot, okay? Perekeshvi, à la fin, quand il parle de la prophétie, il explique que même Moshe est obligé de passer par un Tzimtzum. Mais c'est moins qu'un Tzimtzum, qu'une contraction des autres prophètes. Donc voici la différence entre ce que tu peux atteindre en Eretz Israël et ce que tu peux atteindre en dehors de la terre d'Israël. C'est à peu près à ce niveau-là. Donc on reprend la Gemara. Car tous ceux qui habitent en Eretz Israël ressemblent à quoi? À quelqu'un qui n'a pas de Dieu. En Eretz Israël qui a un Dieu, mais en dehors d'Eretz Israël qui n'a pas. Donc pour l'instant, on parle de Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un Dieu? Ça veut dire domé. C'est pas ressembler. Maintenant, vous avez compris, on est en train de parler du Koach HaDimyon. C'est-à-dire qu'il a la force imaginative nécessaire qui peut se développer en Eretz Israël. Le domé, chez lui, le ressemblant chez lui, commence à monter. Donc il peut devenir prophète. C'est ça, domé. Donc il reçoit des messages du divin parce qu'il a développé son côté imaginatif, le domé. Par contre, ceux qui habitent en dehors de la terre d'Israël, domé kemishenlo Eloa. Donc lui, il n'arrive pas à développer son koach hadimyon parce que la force imaginative ne peut pas en réalité marcher en dehors de la terre d'Israël. Donc c'est comme s'il ne recevait rien de l'infini, béni soit-il, dans son monde réel, c'est-à-dire le Shem Elohim. Donc, Domé Kemishen Lo Eloa. Eloa, c'est Elohim. Il lui manque le nom de Elohim, c'est-à-dire le Dieu immanent.
Il y a eu des prophètes en dehors d'Israël?
Non. Les prophètes en dehors d'Israël sont que parce qu'ils sont liés à Israël. Ça n'existe pas une prophétie en dehors d'Eretz Israël qui parle d'autre chose. C'est que pour le peuple où il doit revenir en Eretz Israël ou qui est lié à la terre d'Israël immédiatement. Ça, oui. Mais une prophétie qui parle d'autre chose, par exemple que tous les juifs de Paris doivent ce Shabbat allumer une veilleuse avant l'entrée du Shabbat à 3 heures, ça n'existe pas.
Hein?
Tout est lié à Eretz Israël, à la Géoula, au retour de Am Israël sur sa terre. Shebechul, Shehi Ar Adecha Shocha. Donc, le Rav nous explique en fait ce que la Gemara nous dit. Car Chutz Laaretz, le degré de, en dehors d'Eretz Israël, Ar Adecha Shocha, c'est de l'araméen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ara, qu'est-ce que c'est Ara? C'est une terre de Chashucha, de l'obscurité, la terre du noir, Ken du Chosher. A Mashal Rachok Min Hanimshal, donc lorsqu'on te donne un exemple là-bas, tu ne peux pas le convertir en réalité. C'est-à-dire, l'exemple est très loin de la solution. On n'arrive pas à faire les liens entre les choses, en fait. Il nous manque, en fait, un trait d'union entre la source et le résultat. Comment ça s'appelle dans les degrés de la Kabbalah? Le da'at. Il nous manque le da'at. Le da'at, c'est la connexion. C'est une sphère qui se trouve dans le lien des tfilim que nous posons ici, dans le cervelet. Il y a le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Ce point-là du cervelet, c'est là où se cache la sphère de da'at. Et cette sphère-là, c'est elle qui est capable de traduire ma pensée en réalité. C'est pour ça que c'est dans un axe entre la pensée et le début de ma réalité, c'est-à-dire mon corps. Donc, entre la tête et le corps, il y a un point qui représente l'axe. Si ce point est endommagé, chas v'shalom, alors la personne n'arrive pas à traduire une pensée en action. Si cette personne travaille ce point-là, mais dès qu'elle a une pensée, elle sait l'appliquer. Les gens qui n'ont pas de da'at sont en exil. Les gens qui ont gagné un da'at, qui ont leur acheté, qui ont travaillé dessus, il ne manque rien. C'est pour ça que les sages nous disent « Da'at chasarta makanita ». S'il te manque du da'at, tu n'as rien. « Da'at kanita machasarta ». Une fois que tu as acheté le da'at, tu ne manques plus de rien, parce que tu as la capacité de traduire des données supérieures en réalité physique, matérielle et cristallisée. Donc en Chutz Laaretz, il y a un décalage entre l'exemple et le résultat de l'exemple, l'explication de l'exemple. Ken. De quoi? Ken. Quelqu'un qui ne travaille pas, même en Eretz Israël, il peut perdre un des degrés de son da'at. Ken. Il faut travailler le da'at en Eretz Israël. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est une terre où il faut travailler une chose essentielle. C'est la connexion entre tous les points. Comment est-ce que je peux connecter entre tous les points? Je dois moi-même être au-dessus. Ce qui reste dans le monde du détail ne peuvent pas jouer ce rôle-là. C'est seulement si je suis au-dessus de tous les détails que je peux voir d'une manière globale, d'une vision beaucoup plus large, avec une optique large, tout le système. Quelqu'un qui est dans le détail lui-même, il se perd dans les détails, il n'arrive plus à faire le lien entre les degrés. Donc il y a une différence entre un homme qui a du da'at et un homme qui n'a pas de da'at. Quelqu'un qui n'a pas de date, il vit ses jours comme des jours qui passent. C'est-à-dire, tous les jours, il attend demain, et après-demain, et encore après-demain. Il ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie. C'est des jours qui passent. C'est la vie qui fait, qui dirige sa vie. Alors que quelqu'un qui a du date, il sait où doit aller. Parce qu'il sait aussi d'où il est venu. Il est au-dessus de tout ça. Donc il dirige sa vie selon ça. Quel
rapport avec Eretz
Israël? Eretz Israël, c'est le degré du date. C'est-à-dire que Eretz Israël représente la terre des connexions. J'ai dit tout à l'heure que c'est ici que le ciel et la terre s'embrassent. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ici que le ciel et la terre s'embrassent? Que les idées, que les idéaux arrivent à se concrétiser. C'est tout. C'est ici, c'est en Eretz Israël. Donc c'est le seul point au monde qui sert de colle entre Dieu et sa création. C'est tout. À partir de ce moment-là, si tu as compris ce secret-là, eh bien, tout ce qui se fait ici, c'est le début de tout ce qui va apparaître après, même dans les contrées les plus lointaines de cette planète. Shlomo HaMelech, par exemple, savait planter autour du Beth Amikdash plein de légumes, et il savait qu'en les plantant dans ce point-là, dans une petite ruelle à côté de son palais à Jérusalem, il savait que sous la terre, il y avait comme un air qui allait pousser en Afrique du Sud à tel endroit. Pourquoi? Parce que le centre névralgique, c'est Eretz Israël. C'est comme si mon point de tous les nerfs commence ici, et donc il va après se dispatcher en milliards de petites ramifications, vous êtes d'accord? Mais si je sais que ce point-là arrive finalement à ce petit doigt, mais je peux faire le lien. Ça, c'est la terre d'Israël. C'est ça la sagesse d'Eretz Israël. Sinon, je peux rester toute ma vie coincé dans un petit doigt, sans savoir le petit doigt de quoi. Je ne sais pas que le doigt appartient à une main, qui elle appartient à un corps, et ce corps appartient à une âme, et cette âme s'appelle Yoël, et qu'est-ce que je suis venu faire ici? Donc mon petit doigt ne comprend rien à sa vie. Ou bien, mon petit doigt est tellement dans la conscience de quelle petite branche il fait dans ce grand tout que je viens d'expliquer, qu'il joue lui aussi son rôle. Ce que je viens de dire au niveau du corps humain, c'est vous. C'est-à-dire, chacun de nous est un ongle, un petit doigt, un petit cheveu, un petit poil. Dans le collectif Israël, si vous savez le rôle que vous avez à jouer dans ce grand corps national, eh bien vous associez à tout ce flux et vous jouez le même rôle. Et si vous ne savez pas, vous ne comprenez rien de ce qui se passe, vous vivez votre petite vie tranquille, peinard, eh bien c'est comme si, je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire, c'est comme si tous les matins je me levais tout entier, mais ce petit bout de doigt il ne veut pas se lever. Alors il dit, non, partez, moi je reste au lit. C'est possible? Ça veut dire que c'est un homme qui devient, chas v'shalom, schizophrène. Donc il y a un problème, ses membres ne contrôlent plus, son cerveau ne contrôle plus ses membres. Et quand il veut manger une glace, il se la met dans l'œil, au lieu de la rentrer dans la bouche. Mais c'est la même chose, quand on s'éloigne de la terre d'Israël, c'est ce qui se passe, en gros. C'est un Non. Si on est conscient de cela et qu'on a envie de revenir, cependant nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas, alors Akadosh Baruch Hu considère que tu es déjà dans la direction. C'est sûr que ce n'est pas encore l'idéal, mais si tu développes un système anti, alors là tu es déconnecté complètement. Chas v'shalom. Okay. C'est vrai? Donc, Umimaila en Masigimoto. Donc tu ne peux rien recevoir donc de cette donnée divine. Lochen be'eretz Israël, ce qui n'est pas le cas en Eretz Israël, chez Shama Hamashal ve'Nimshal Smudim Yachad. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, en Eretz Israël, l'exemple et le résultat se touchent. Okay? Alors imaginez-vous une pyramide. Okay? Qu'est-ce qui se passe dans une pyramide? Voilà une pyramide. Voilà une pyramide, on est d'accord? Ça, c'est une pyramide. En bas de la pyramide se trouve l'exemple et la solution de l'exemple. D'accord? Ça veut dire que l'exemple et la solution sont loin l'un de l'autre. Quand tu fais ton alia, tu montes à la pointe de la pyramide. Et qu'est-ce qui se passe à la pointe de la pyramide? L'exemple et le résultat se sont rapprochés au point où ils se touchent complètement. Vous avez compris l'image? C'est tout. Donc, la pyramide, c'est l'Égypte. Monter jusqu'au sommet de la pyramide, c'est arriver en Eretz Israël. Donc ceux qui sont restés en bas de la pyramide, okay, ont perdu leur da'at, ont perdu leur connexion. Ils n'arrivent plus à faire les liens entre les causes et les résultats. Quand tu leur donnes une parabole, ils ne comprennent pas de quoi tu veux parler, ils s'attachent à la parabole. Okay, quand vous regardez un film, si vous n'avez rien compris au film, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me raconter. Vous allez me raconter tous les passages du film. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé, explique-moi de quoi ça parle. Et toi, comme tu ne sais pas, mais tu te rappelles très très bien de tout ce qui s'est passé. Tu vas me dire, oui, l'acteur, il avait une cravate magnifique. Et ça commence par un type qui est sur une moto et qui saute par un pont. Mais je ne t'ai pas demandé de me donner les détails. Ça me prouve que tu ne comprends rien. Tu sais très 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 bien me raconter tout le film du début à la fin, mais tu ne sais pas faire le lien entre tout ça. Ça ressemble à un collier de perles, mais il n'y a pas le fil à l'intérieur, il n'y a que les perles. D'accord? Alors ce n'est plus un collier. Le collier, c'est quand je prends toutes les perles, que je les arrange, et que je passe un fil conducteur, et que je ferme. Alors là, j'ai un beau collier. Mais si je prends toutes les billes, éparpillé, okay, je ne sais plus où je suis. Mais il y a des gens qui vivent comme ça, avec des perles sans fil conducteur. Et il y a des gens qui ont le fil conducteur et les perles. Et ça, c'est une autre vie, c'est un autre niveau de vie. Parce que tout est clair. Il y a un collier. Alors que là, c'est un sac de billes. Tu comprends plus rien. Et donc, Eretz Israël, tout est collé. C'est-à-dire que la source et le résultat sont collés. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. Le bébé dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe? La source et les résultats sont collés. Oui ou non? Il y a marqué dans la Gemara, Sota, Nida, pardon, que le bébé voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde? Ça veut dire que pour lui, le présent, il voit déjà l'avenir. Et la preuve, comment il est dans le ventre de sa mère? Comme ça. Comme ça. Quand il va grandir, il va être comme ça. Mais quand il est dedans, il est comme ça. On est d'accord? Ça veut dire que sa tête touche ses pieds. Donc il est plié. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête touche les pieds? Et que la source touche le résultat. Alors que quand vous êtes debout maintenant, votre tête est en haut, vos jambes sont en bas. Et là, c'est un petit peu plus difficile de faire le lien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes angoissé? Eh bien, vous vous recroquevillez dans votre lit pour retrouver l'état fœtal comme vous étiez dans le ventre de maman. Donc, l'angoisse vous fait revenir, vous replier. Et alors, tu commences à vouloir revenir à cette sensation que tu as goûtée un jour pour essayer de comprendre un petit peu plus dans ta vie. Et si ça ne marche pas, tu rentres au mikvé, tu prends la même position. Tenez, au mikvé, c'est la position qu'on doit prendre. Parce que quand tu rentres au mikvé, comment tu fais pour te tremper? Tu lèves tes jambes de l'eau et tu baisses ta tête. Donc tes pieds, tu es comme replié. Donc tu reprends cette position du fœtus. Okay? C'est l'oreille de l'homme. Vous voyez que c'est un fœtus? L'oreille de l'homme, c'est un fœtus. C'est la même chose, c'est un bébé. Si tu sais les secrets qui se trouvent dans l'oreille, tu connais les secrets de ta vie. Toute votre vie est dans vos oreilles. C'est-à-dire, avoir l'oreille de quelqu'un, on peut lui raconter sa vie. Ça, c'est l'enseignement du Zohar. Tov. Ve'en ha-mashal makhe et oro ha-nisgav shel ha-nimshal. Donc le mashal en Eretz Israël ne gâche rien à la solution. C'est-à-dire l'exemple et la solution sont tellement clairs que il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance, tu vois tout de suite. Même si on te raconte une histoire d'un père qui est mort et qui est en train de construire un mur avec des briques qui sont par terre, le résultat est clair. Il est là devant tes yeux. Pourquoi? C'est la force d'Eretz Israël qui donne ça. Ve'af shegam be'Eretz Israël yesh tzorech letzimtzumim ve'agvalot. Et malgré tout, on a dit que même en Eretz Israël, on a besoin de contraction. Parce que s'il n'y a pas de contraction, on ne peut rien recevoir. Meshalim vedimyonot. Même ici, les prophètes ont besoin d'images, ont besoin d'imager ce qu'ils voient. Bechol zot al yedei ha-mashal ve'atzimtzum masigim gam et ha-nimshal bedargato ha-elyona. Cependant, le prophète, lorsqu'il est en Eretz Israël et qu'il prophétise, que Dieu le prophétise, que Dieu est en train de lui faire passer un message, eh bien, il voit l'image et il voit sa résultante. Il voit l'image et il voit sa solution. D'accord? Il voit l'exemple et sa solution en même temps. Donc il ressemble à quelqu'un dont la force imaginative est développée tellement que Yutke Vavke, le tétragramme, devient Elohim. D'accord? N'oubliez pas les deux noms. Avaya, Elohim. Asagazo. Combien c'est en valeur numérique? Avaya, Elohim. Avaya, c'est combien? 26. Et Shem Elohim? Quand? 86. Donc 26 et 86, ça fait combien? Non. 112. D'accord? Toi, tu as fait Avaya Adnout. Donc Avaya Elohim, c'est 112. Qu'est-ce que c'est 112? Qu'est-ce que c'est la valeur numérique de 112? C'est lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, on dit qu'il est passé par un passage qui s'appelle le Yabok. Yud Bet Kuf. Combien c'est en valeur numérique? 112. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on revient en Eretz Israël, on passe par ce passage obligatoire qui fait le lien entre Avaya et Elohim. C'est-à-dire qu'ici en Eretz Israël, tu peux faire le lien entre le nom de Dieu qui nous dépasse, qui nous transcende, et le nom de Dieu qui est ici, immanent. Seulement ici, c'est tout. Hasagazo chez Eretz Israël. Donc cette aptitude que nous acquérons en Eretz Israël, Hirak betorat matana met akadosh baruch hu. C'est seulement un cadeau qu'akadosh baruch hu nous fait. Ken? Pourquoi? Parce que les sages nous disent dans le traité de Brachot à la page 5, Shalosh matanot natan akadosh baruch hu le Israël. Akadosh baruch hu a donné trois cadeaux, trois dons à Israël. Torah, l'un d'entre eux, c'est la Torah. Le deuxième, c'est Eretz Israël. Et le troisième cadeau, c'est Olam Abba. Voici les trois cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu donne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne trois cadeaux? Et d'ailleurs, quelle est la suite de cette Gemara? Bien fait. Il donne ses cadeaux, mais pour les recevoir, il faut que tu passes par des épreuves. Alors, je comprends pas, c'est un cadeau empoisonné ou quoi? Si tu me donnes un cadeau, donne-moi un cadeau. Non, je te donne un cadeau, mais... tu dois le mériter. Alors c'est plus un cadeau, c'est un mérite. Alors c'est plus un cadeau. Ça veut dire où se trouve le cadeau en fait? Bien fait. Je vous ai donné le cadeau, mais il est fermé. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu donne un cadeau, il le donne toujours fermé, comme nous. Généralement quand on veut donner un cadeau à quelqu'un, on le donne fermé. Donc qu'est-ce qu'il doit faire celui qui reçoit le cadeau? Minimum, l'ouvrir. Alors, s'il n'a pas ouvert son cadeau, jamais il le recevra. On est d'accord? Si vous voulez faire un test, Ken, vous mettez de l'argent dans un livre. Et vous donnez ce livre à un bar mitzvah. Ken? Alors, s'il ouvre jamais le livre, il n'aura pas l'argent. Ken? J'ai vu un oncle très riche qui a fait ce coup à un bar mitzvah. Il a donné beaucoup d'argent, mais il y a fermé dans un livre. Il y a donné. Et il ne l'a jamais ouvert. Écoutez bien, cet enfant n'a jamais ouvert ce livre et la monnaie a changé dans le pays. Et il a raté une somme colossale d'argent. Et quand il était un petit peu plus vieux, un jour il a ouvert le livre, il a vu tous ses billets, il n'a rien compris. Et il a vu le petit texte de son oncle. Si tu n'ouvres pas ce livre, tu n'auras jamais cet argent. Et peut-être que c'est trop tard quand tu l'ouvriras. Mais c'est la même chose dans notre vie. Ce que je vous raconte ici, ça vous angoisse? Mais c'est la même chose. Cet oncle, ça, Kadosh Baruch Hu, je viens de vous faire le même système. Je vous ai donné un exemple et une solution. Cet oncle très riche, ça, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné à l'intérieur de nous trois cadeaux. Je ne sais pas combien d'entre nous les ont ouverts. Et nous devons ouvrir les trois. Olam Haba, Eretz Israël et la Torah. Si tu ne les ouvres pas, ça va être des cadeaux fermés. Des cadeaux fermés, ça ne veut rien dire. C'est comme une enveloppe que tu n'as jamais ouverte. Tiens, tu as reçu une lettre, tu ne l'as jamais ouverte. Elle t'a fait quelque chose? Non, tu n'es même pas au courant que tu l'as reçue. Ça veut dire qu'elle ne t'appartient pas. Quand est-ce que la lettre t'appartient? Quand tu as ouvert l'enveloppe. On est d'accord ou pas? C'est tout. C'est comme ça dans notre monde. Et donc, ces trois cadeaux sont trois cadeaux. Mais ils ont un dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun de ces trois? Pourquoi tu dis que c'est un? À quoi tu pensais? Alors pourquoi il n'y a pas marqué seulement Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau-là? Si c'était que Eretz Israël et tout était déjà englobé en lui, pourquoi tu me dis Olam Haba?
La Torah, c'est Torah d'Eretz Israël. Olam Haba, c'est Olam.
Et alors il y a plein de choses aussi. Il y a plein de choses aussi. Il y a même cet immeuble. Il y a mon fils et ma fille qui sont nés ici. Il y a... Pourquoi que ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ces trois-là? Hein? Ces trois cadeaux sont tout, en réalité. Ils ne sont pas une seule chose. Ils sont toutes les choses. Mais pas toutes les choses pour tout le monde. Toutes les choses pour un homme d'Israël. Ça veut dire que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous d'ouvrir dans notre vie. Il attend d'un juif d'ouvrir son dossier Eretz Israël un jour. Il attend d'un juif d'ouvrir son dossier Torah un jour. Et il attend d'un juif d'ouvrir son dossier Olam Abba un jour. Voilà ce qu'il attend de nous. Ça veut dire, si je n'ai pas fait ces trois choses, je n'ai rien compris. Kol mishelo amar shlosha dvarim ele be Pesach lo yatsa yede chovato. Vous vous rappelez, dans le Seder de Pesach, marqué, celui qui ne dit pas ces trois choses pendant le Seder de Pesach, il n'est pas quitte. Pesach, Matzah ou Maror. Va comprendre, toujours trois choses. Là-bas aussi, la même chose. Pesach, Matzah ou Maror. Ça veut dire, si je comprends le secret du code Pesach, Matzah ou Maror, j'ai tout compris à Pesach. Si je n'ai pas compris ce code-là, je n'ai rien compris à ma vie. Donc je ne suis pas sorti d'Égypte. La même chose ici, on peut dire. Si je devais écrire maintenant une Gemara, Ken, moi j'aurais dit, Ken, Kol mi shelo patach shalosh matanot ele lo yatsa yedeh chovato bechayav. Quiconque n'a pas ouvert ses trois cadeaux pendant sa vie ne s'est pas rendu quitte durant sa vie. Ve elouem, et les voici, Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Okay. Comment on peut ouvrir la Torah? Comment ouvrir Eretz Israël? Et Olam Haba, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est Olam Haba? C'est ça la question qui se pose. Qu'est-ce que c'est que l'Olam Haba?
C'est pas le mérite d'étudier la Torah et pas le mérite d'habiter en Israël. On pourrait avoir une association vérité, non?
La réalisation.
C'est quand l'Olam Haba?
Ça fait 120 ans.
Non. C'est pas marqué. C'est maintenant. C'est au présent. Olam Haba, c'est au présent. Comment on dit le monde futur? Olam Sheyavo. Moi je parle hébreu, hein, je parle pas français. Hein, je sais pas ce que vous racontez en français. Le monde futur, ça s'appelle Olam Sheyavo. On est d'accord ou pas? C'est grammatical. Hein, je suis en train de vous dire une traduction. Le monde futur. Tous les Français disent, tous les Juifs français disent le monde futur. D'accord? Traduction en hébreu, Olam Sheyavo. C'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Olam Haba, c'est-à-dire Olam Sheba. Quand est-ce qu'il vient? Maintenant. Donc la véritable traduction devrait être le monde qui vient. Ah. Qu'est-ce que c'est donc le Olam Hazeh? Je parle du monde qui vient et du monde qui est. Alors qu'est-ce que c'est le Olam Hazeh? Je vais vous donner un exemple de ces deux degrés et après vous allez faire Shiurei Bayit. Olam Hazeh c'est encore. Olam Haba c'est un Neshama. Ils sont tous les deux dans le temps présent? Oui. Seulement toi tu atteins plus facilement ton Olam Hazeh parce que tu le vois, tu le vis, ta faim, ta soif. Et le Olam Haba, il faut juste un petit peu creuser pour savoir qu'il est là. Mais il est là. Il n'a pas bougé. Donc c'est pas après 120 ans, parce que si c'était après 120 ans, on vivrait même pas. Vous êtes d'accord? Le Olam Haba nous fait vivre à chaque instant, c'est l'Aneshama qui est en moi. C'est le monde qui vient en moi à chaque instant. Pas le monde futur. Ça ne veut rien dire, ça. Rien dire, strictement rien dire. C'est-à-dire, traduction égale trahison. Et voilà. Quand on parle en français, on trahit la Torah. Ce que je suis en train de faire depuis des mois ici.
C'est quoi le passage qu'on dit? Avant le Shabbat, on dit un passage qu'on parle à celui qui étudie la Torah.
Kol ashone halachot bechol yom, yesh lo chelek leolam haba. C'est-à-dire que si j'étudie une halakha, deux halakhot chaque jour, je fais en sorte que mon olam haba qui est à l'intérieur de moi se dévoile. Donc je le vois plus clairement. Quand j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Mon olam haba devient aussi clair que mon olam hazeh. C'est-à-dire ma neshama devient aussi palpable que mon corps. Ma? Le Olam Hazeh il capoute.
Le corps, c'est le Olam Hazeh, on est d'accord?
Oui.
Qu'il y a un moment où on meurt, il n'y a plus de corps.
D'où tu sais ça?
J'ai revu des os.
Mais c'est l'idéal d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a créé le monde?
Le Olam Hazeh est quand même un petit différent de ce monde-ci.
Ah bon? Alors j'ai un grand chidouche qui va te décevoir. Il y a marqué qu'à la fin des temps, quand on aura tout fini, c'est Triatametim, c'est la résurrection des morts. Ah, on revient tous dans des corps. Quelle galère! C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a prévu? Ça te déçoit, non? Tu sais pourquoi? Parce que tu as vécu dans un système chrétien où tu crois que l'idéal, c'est rencontrer Dieu après la vie. Donc moi j'ai une solution, c'est assez haut ici. On peut rejoindre directement. Quel? Tu comprends? Chas v'shalom. T'as envie de vivre?
Oui.
Y a fait. Pourquoi? Non. Parce que tu as conscience à l'intérieur de toi que ce que Dieu veut, c'est que tu amènes le Olam Haba dans ton corps d'ici et pas attendre que tu meurs pour kiffer après. Là-bas, ça a l'air plus kiffant. Encore une fois, parce que Adam Arishon a fauté. C'est pas prévu dans le programme. Quand on corrigera la faute du premier homme, on vivra éternellement. Hein? On a corrigé avec la faute du Vaudor. Bon, tu restes avec moi. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je peux te prendre après le coup. On reprend tout. Hein? Ken, à zéro. Nachon. C'est la même chose. C'est ici. C'est l'Olam Haba qui se dévoile dans l'Olam Hazeh.
Ken. Non, non, voilà, non, c'est ça. Non, mais quand on dit qu'il y a Shabbat, par exemple, pour vous, c'est une
partie. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends mon Olam Haba maintenant, je le mange.
Et ça veut pas dire que les autres jours, on n'y goûte pas. Ça veut juste dire que Shabbat,
tout à fait. L'idéal, c'est de le goûter même les autres jours. C'est pour ça que ce matin, si tu étais à la Tfila, tu as dit à Yom Yom Shlishi Besh Shabbat. On est le mardi du Shabbat. C'est-à-dire, je goûte un petit peu du mardi du Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat a un petit mardi chez lui, qui se cache, une petite branche qui s'appelle Martes, okay. Ou la planète Mars. Okay. C'est ça? Quel?
Les âmes des tzadikim sont où maintenant?
Les quoi?
Les âmes des tzadikim sont décédées, sont où maintenant?
D'après toi? Ils sont dans des corps de gens de maintenant.
Ils sont réincarnés?
Voilà. Toutes les tzadikim sont dans ce monde. Tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, du peuple juif jusqu'à maintenant, tout est condensé dans notre génération. C'est-à-dire notre génération comporte toutes les neshamot de tous les tzadikim qui sont revenus dans cette génération pour dévoiler les temps messianiques.
Est-ce qu'il y en a qui sont pas revenus?
Ok. C'est-à-dire c'est une étincelle, mais toutes les étincelles reviennent. C'est-à-dire l'étincelle qui a été corrigée. Je ne peux pas rentrer maintenant, c'est un chiour à part entière, qu'est-ce que c'est que les neshamot et tout ça, mais sache que tout revient. C'est une roue. Ça s'appelle Galgal. Ou, dans ton terme à toi, Gilgul.
Alors, s'ils ont accompli leur devoir.
Ken. Ils viennent t'aider aussi.
Ils vont pas revenir,
hein. Si, ils viennent pour t'aider.
À quoi ça sert d'accomplir leur devoir, alors, si c'est pour
la... Encore une fois, ils ont fini leur travail. Quand j'ai fini mon examen, je viens à côté de toi et je te dis, qu'est-ce qui te manque, toi? Viens, je vais te corriger tes fautes et je vais essayer de t'aider. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik qui ne travaille pas que pour lui. Ce n'est pas lui et sa pomme. Un tzaddik, qu'est-ce que c'est tzaddik? Tzaddik, c'est Klal Israël. Ça n'existe pas un tzaddik individuel. Ça n'existe pas. Oubliez toutes ces notions. Tzaddik, ce n'est pas un petit homme qui pense à son petit Olam Haba. Lui, il fait ses petites mitzvot, machin. C'est pas ça un tzaddik. Ça, on a des notions complètement erronées. Vous vous rasez à la lame? Vous vous rasez à la lame? Pourquoi? C'est interdit? Eh bien, s'il y a un Israélien, maintenant, qui se rase à la lame, c'est comme si, toi, tu étais rasé moitié avec ton rasoir, moitié à la lame. Ou alors, lui, il est en train de dire la même chose, on est bien barré. Alors, qui a raison? Tu comprends? Eh bien, les sages nous disent, il faut que tu sois chacham. 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 Voilà le chacham. Je voulais écrire avec un même central. Qu'est-ce que c'est chacham? Kos chatsi melea. Il faut que tu vois le verre à moitié plein. Chatsi kos melea. D'accord? C'est ça le chacham. Et celui qui voit le verre à moitié vide, il est toujours dans l'angoisse, toujours dans le pessimisme. Quel pessimisme, c'est du passé. Il est coincé dans un système du passé. Parce que quelqu'un l'a énervé il y a 10 ans, parce qu'il a été traumatisé il y a 5 ans, parce qu'il a été... Il y a toujours une histoire. Donc tu es toujours coincé quelque part. Tu ne vis pas ton présent et ton futur. Le présent et le futur, quelqu'un qui a un futur, il a le nom juif qui s'appelle le futur. Quel est le premier juif de l'histoire? Non? Yitzhak. Ben Vadaï, c'est lui qui a fait la Brit Mila à 8 jours comme il faut. Le premier. D'accord ? Son nom est au présent ou futur ?
Futur.
Futur. C'est bizarre comme prénom d'ailleurs. Il rira. D'ailleurs, tu as un enfant dans la maison, tu dis « Il rira !» Ou tu te caches ? C'est la traduction, hein, je n'invente rien. Hein.
C'est aussi Abraham aussi qui a un nom futur, non ?
Non.
C'est le père, pas grammaticalement, mais
C'est le papa, c'est la source. C'est la racine. C'est la racine. Il contient en lui, mais le nom. Okay. Et il y a plusieurs prénoms comme ça. Qui sont, et par exemple, un type qui a deux enfants, un Avram et un Yosef. Un Yitzhak et un Yosef. Il est mal barré, le mec. Il rira. Tu t'arrêtes. Il rajoutera où tu es. Yosef. Il rajoutera. Jonathan, il donnera.
Dieu donné.
Okay. Yeah. Vous comprenez? Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple du futur. Donc Yosef, c'est nous. Yosef, c'est nous. Israël s'appelle Yosef. She'erit Yosef. C'est ce qui nous reste de Yosef. C'est nous. Asagaz o she'eretz Israël, hi rak mit Torat Matana, donc ou belo be Torat Matana, lo haya efshar beshum ofen lehagi al idei asagak nifla'a kazo. Et si HaKadosh Baruch Hu nous avait pas donné ce cadeau, jamais on aurait pu l'atteindre de par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'HaKadosh Baruch Hu a créé un système qui s'appelle la prophétie, et il a mis en nous un système qui s'appelle la force imaginative, et il nous a donné une terre qui correspond à notre nature et à cette force-là. Et il nous dit tout simplement, c'est à vous de venir. C'est tout. Donc si vous êtes clairvoyant, eh bien vous venez habiter sur cette terre et vous commencez à devenir vraiment clairvoyant. C'est-à-dire vous voyez ce que les autres ne voient pas. Et donc quand les autres ils vont tourner pendant 20 ans, 30 ans, et après ils vont arriver à la même solution que toi tu as déjà compris il y a quelques années. Finalement tout le monde va arriver ici. Le problème c'est qu'ils auront fauté par le temps. Fauté par le retard. C'est une faute extrêmement grave. Il vaut mieux fauter par la hâtise que fauter par le retard. Parce que quand je suis pressé de faire quelque chose, ça veut dire que cette chose est importante pour moi, je l'aime. Alors je peux fauter, c'est vrai, je l'ai faite avant le temps. Mais ça prouve que je l'aimais. Et quand je faute par un retard, c'est-à-dire que j'ai négligé cette force et je ne lui ai pas donné le degré nécessaire. Je n'y ai pas donné l'importance nécessaire. Vous avez compris ? Comment ça veut dire ne pas savoir ? Quand tu es... Dis-moi, tu as ton permis de conduire ? Est-ce que tu peux maintenant rouler ? Hein ? Tu es sûr ? Est-ce que tu peux rouler maintenant ? Non, tu n'as pas le droit de rouler. C'est tout. Et si maintenant, moi qui roule depuis Hafna, 30 ans, je roule depuis 30 ans, d'accord ? S'il y a un panneau que je ne connais pas, il y a un flic qui m'arrête, qu'est-ce que je lui dis ? Oh là là, jamais je l'ai vu celui-là. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Hein ? Non, je l'ai vu, mais je ne sais pas ce que c'est. J'en sais rien, moi, ce truc-là. Je sais pas, il y a un type qui est en train de construire un tas de sable, c'est la mer. Il y a un type avec une pelle et un tas de sable. Je lui dis, c'est la plage à côté? Il y a des enfants qui jouent? Il va me dire, dis-moi, t'es malade? Je dis, non, la vérité, monsieur l'agent, je fais pas exprès. Hein. Et c'est quoi ce truc-là rouge avec une barre? J'ai rien vu, hein. La voiture, j'ai roulé, il n'y avait rien, il n'y avait aucune barre rouge comme ça sur l'espace. Il va me dire, bon, celui-là, il faut vite le rentrer à l'hôpital, ok? Ça veut dire que dans le judaïsme, nul n'est censé ignorer. Donc il faut que tu étudies. Encore une fois, comment on dit? Shigega, ken? Olaz Zadon. Ça veut dire quand quelqu'un se trompe, c'est comme s'il a fait exprès. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un système. Alors maintenant, je peux trouver des circonstances atténuantes et dire que tous les gens aujourd'hui qui ne font rien sont en réalité des bébés prisonniers. Ce qu'on appelle Tinok Shenishba. Et c'est là, on peut le dire. On peut le dire. C'est des gens qui ne savent pas et tout ça, donc il faut leur enseigner. Okay.
Quand j'étais en France, j'avais pas eu encore
cet enseignement. Bien fait. N'accord. Donc tu ne faisais rien. Tout doucement, tu fais et tu travailles et tu essaies de développer. Maintenant, quel est ton rôle? Non, d'aller enseigner à ceux qui étaient comme toi il y a 10 ans. C'est tout. Il faut que tu ouvres ta Torah à ceux qui sont encore là-bas, mais qui nous écoutent sur Internet. Toda Rabba.